Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, sortez vos crocs parce qu'on s'en va rendre une petite visite au gardien de la crypte. Pour qu'il nous raconte l'histoire d'un bordel où tous nos désirs y sont mortellement exaucés et où les créatures vampiriques qui s'y trouvent sont prêtes à nous sucer le sang et bien d'autres choses, jusqu'à la dernière goutte. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Sans commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Puisque l'Halloween est enfin à nos portes, c'est l'excuse parfaite pour discuter d'un bon film d'horreur. Cependant, on va laisser les grands classiques de côté pour cette fois et on va se tourner vers un long métrage qui commence à devenir un film culte depuis un certain temps. Mais vous découvrirez très vite que pour mon invité et moi-même, c'est un film culte depuis le tout début de notre adolescence. Ce film est nul autre que Bordello of Blood, le deuxième film de la trilogie cinématographique de la franchise d'épouvante Tales from the Crypt. Dans cet épisode, on va explorer tous les bons côtés du film et les aspects plus discutables que lui reconnaissent une base de fans qui grandit année après année. Puis en plus, ça va nous faire voyager dans le temps pour redécouvrir comment les films d'horreur se faisaient pendant les années 90. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement tous nos précédents épisodes sur SoundCloud et Balado Québec. Vous avez juste à écrire le nom du podcast dans le moteur de recherche et ça va vous amener à la liste de nos épisodes. Je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook du podcast au facebook.com/podcastscop pour connaître avant tout le monde un tas de nouvelles sur les nouveaux épisodes à venir. Et comme dans la vraie vie, n'hésitez pas à partager et à aimer le podcast. Chers auditeurs et auditrices, c'est maintenant le temps de mettre le cap sur le bordel situé au
325 rue Beaumont
pour y faire la rencontre de la Reine des Vampires. Le film Bordello of Blood, l'année 1996. Réalisé par Gilbert Adler et mettant en vedette Dennis Miller, le plus sympathique des trous de cul, Erika Eleniak, qui montre qu'elle peut être une actrice crédible sans avoir à se dénuder, Chris Sarandon, dans un rôle encore plus vilain que celui du prince Humperdinck, et Angie Everhart, qui ne se doute pas encore qu'elle deviendra mon épouse et la mère de nos très nombreux enfants. Et chers auditeurs, on est de retour et comme d'habitude, on est prêt à passer à l'action. Et mes amis, cette fois-ci, ça va être un épisode sous le signe de la nostalgie. De nostalgie pour deux raisons. En premier, en raison du film dont on va discuter aujourd'hui, qui pour moi et mon invité a été une expérience formatrice dans notre vie de jeune adolescent en devenir. Vraiment, à partir de l'âge de 12-13 ans, ça a été très formateur. Et deuxièmement, ben pourquoi nostalgie? Parce que je suis accompagné aujourd'hui de mon meilleur ami, celui avec lequel je vais bientôt fêter mes 28 ans d'amitié que je connais depuis vraiment la petite école et on s'est pas lâché à travers toutes les tempêtes qu'on a pu connaître dans nos vies. On est ensemble, alors cet ami-là, ben je vous le présente. Eh bien, comment le décrire? C'est un cinéphile, c'est un acteur formidable, c'est un des meilleurs rôlistes et maîtres de jeu de Montréal, de la province, du Canada et même de l'Amérique du Nord, si c'est pas plus. C'est un gars extrêmement versé également, ben, dans la culture un peu vampirique, si on veut. Mon grand ami, Pierre Tachereau. Pierre, comment vas-tu?
Ça va très très bien, merci de m'avoir invité.
Eh ben, je suis extrêmement content de t'avoir. C'est vraiment un luxe de t'avoir, honnêtement, parce que là, on a vraiment la tempête parfaite. On parle d'un film que toi et moi, on connaisse comme le fond de notre poche. Et je suis pas mal sûr que les souvenirs vont fuir de nous à vitesse grand V pendant tout l'enregistrement aujourd'hui. Ça va être assez lucide.
Ça va couler comme du sang d'une plaie.
Oh, excellent. Comme je disais, va falloir sortir nos crocs aujourd'hui, donc ça va être formidable. Donc, je pense que, écoute, les mauvais jeux de mots vont s'enchaîner, ça va être assez hallucinant, pendant les prochaines heures. Écoute, je vais immédiatement casser la glace avec toi en ce moment, avec la petite question brise-glace. On parle bien sûr du film Bordello of Blood, en français, qui a été doublé La Reine des Vampires, un film présenté par Tales from the Crypt, la fameuse série télé des années, fin des années 80, années 90. Faut que tu me parles, Pierre, de la première fois où tu as vu Bordello of Blood. Et si je ne m'abuse, je pense être assez intimement lié à cette première fois-là. Alors, je t'écoute.
Oui, la première fois que j'ai vu Bordello of Blood, c'était avec toi, probablement chez toi. Je pense dans ton salon, si je ne m'abuse.
Je pourrais pas le dire, honnêtement. 96, t'avais pas déménagé comme près de chez moi. T'étais-tu encore sur de l'esplanade ou quelque chose du genre?
Non, j'étais sur Chambord. Donc on Chambord était voisins.
Qui, en tout cas, moi, j'ai souvenir de l'avoir amené chez toi, ce film-là, honnêtement. Oh. Fait que c'est probablement qu'on a regardé ça dans ton sous-sol, carrément. Ah. Parce que sinon, on aurait été assez exposés si c'était genre sur de l'esplanade, parce que je me souviens, ton salon était petit, ta mère passait tout le temps, puis ça nous aurait vu regarder un film avec autant de nudité, autant de violence. Je pense que ça serait posé des questions. Fait que nous autres, je pense qu'on était assez dans une intimité pour pouvoir se risquer à regarder ça.
On aurait été dans le trouble, sinon.
Merci d'avoir mis les morceaux du cassette ensemble. Moi, écoute, si tu veux, je peux renchérir sur ton souvenir puis te donner l'autre moitié que t'as pas de ma première fois que j'ai vu A Bordello of Blood et ensuite que je te l'ai montré. C'était, je pense, 1997. Je pense que je devais avoir autour de 12, si j'avais pas 13 ans à l'époque. Je m'en vais au club vidéo avec mon père. On se loue des films. J'étais solide dans ma passe de films d'horreur. Tu sais, quand les films que tu peux finalement te taper quand tu commences à être adolescent puis que tes parents te posent pas de questions quand t'en loues. Tu sais, t'es vraiment à cet âge-là, t'as envie de découvrir c'est quoi le gore, l'horreur, etc. Fait que bon, je vois Bordello of Blood. À l'époque, je connaissais déjà un petit peu l'existence de la série Tales from the Crypt, en fait la série télé, parce que je me souviens, je pense qu'on l'avait déjà regardé ensemble, ça passait à CBC à minuit, le vendredi soir. Il y avait un ou deux épisodes qui jouaient un à la suite de l'autre, comme ça on pouvait vraiment voir un peu c'était quoi le concept. Donc là, je vois Bordello of Blood, je vois le fameux Crypt Keeper sur la pochette, alors je le prends. Et là, moi et mon père, on n'est pas retourné immédiatement à la maison, ok? On a fait un petit détour parce qu'on avait faim, on n'avait pas dîné. Fait que là, on est allé chez Patate le Sage, à côté du métro Henri Bourassa. On est allé chercher deux gros sacs de graisseuse. Et là, après ça, arrivé à la maison, je mets toute la quantité de ketchup que je peux sur mes frites. Je descends dans ma chambre, je plug Bordello of Blood dans le lecteur VHS. Et écoute, quel beau moment, t'as une grosse graisseuse à côté, un film d'horreur. Je pouvais pas être plus heureux que ça, tu sais.
Pas n'importe quelle graisseuse, du Le Sage.
Du Le Sage, du défunt Le Sage qui n'existe plus maintenant.
Fends-moi pas le cœur, tu sais.
Je le sais, exactement.
C'est là que j'ai mangé mon premier hot dog à vie.
Oui, écoute, ben c'est aussi le fait que, bon, une des raisons pourquoi je faisais énormément dans mon point durant mon adolescence, mais je vous rassure, chers auditeurs, c'est terminé cette époque-là. Puis là, ben moi, ce que je me souviens, c'est que je pense avoir eu tellement de fun à regarder Bordello of Blood dans mon premier visionnement qu'il fallait absolument que je le montre à quelqu'un. Fait que c'est pour ça que j'ai probablement pogné le téléphone, je t'ai appelé, j'ai fait « Pierre, faut que je te montre ça » et je t'ai amené carrément le VHS. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que il y a plusieurs scènes avec des répliques fétiches de la version française que même à l'âge de 33-34 ans, on se les dit encore. Tu sais, genre, si je te dis « tchou-tchou-tchou-tchou » et voilà, ou plein d'affaires de même, ou vous revenez demain avec un petit paquet de mouchoirs en papier. Tu sais, plein de répliques de même que nos auditeurs comprendront peut-être en regardant la version française. Anyway, ça, comme je dis, ça a été formateur aussi comme expérience, parce que dans ce film-là, on voyait pas seulement du gore, mais légalement, sans avoir besoin de regarder Bleu Nuit en cachette, on pouvait voir de la nudité féminine. C'était très bien quand même. Puis en plus, c'était de la nudité années 90 au bout. C'est-à-dire, c'était quoi le canon de beauté des femmes des années 90? C'était les gros seins en silicone. Et ce film-là, mon Dieu, je pense pas qu'il y ait une fille qui en ait des naturels dans ce film-là ou quelque chose de genre. Ou s'il y en a des naturels, on les voit pas dans ce film-là. Ça, c'est clair à 100%. C'était tout pour vraiment inspirer les hormones de jeunes garçons qu'on était, j'ai l'impression.
Tout à fait, tout à fait.
Fait que c'est ça, c'est un petit peu ma version. Puis c'est pour ça que, ben, depuis des années, c'est rendu, c'est encore un petit plaisir coupable, tu sais, genre, de temps en temps. Je pense que je le regarde peut-être une fois par année. Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. T'sais, c'est un film que la version française, je la connais par cœur. Je suis capable de faire du lip-sync dessus tellement que je la connais. Alors, ben, c'est pour ça que je me suis dit que ça vaudrait la peine d'en discuter un petit peu puis de faire découvrir à nos auditeurs. Peut-être au moins leur donner le goût d'aller trouver, de downloader. Je pense que ça se trouve assez facilement. Surtout que il y a Shout Factory qui a sorti une toute nouvelle réédition en Blu-ray avec un super beau transfert HD puis des special features assez intéressants, honnêtement. Pierre, avant d'aborder un peu les scènes clés puis le contenu du film, moi je pensais peut-être donner un petit contexte socio-politico-historique à pourquoi la série télé Tales from the Crypt s'est mise à faire des films dans les années 90. Alors, chers auditeurs, je vous donne votre petit cours d'histoire là-dessus. Alors bon, Tales from the Crypt, ça a commencé au départ dans les années 50 et 60, ça a duré peut-être jusqu'aux années 70-80, si c'est pas plus, avec une série de bandes dessinées produites par EC Comics. Attends, je dis bien EC Comics et non pas DC Comics. Donc, EC Comics, eux autres, ont sorti une série de bandes dessinées qui étaient Tales from the Crypt, Vault of Horror, puis un paquet d'autres. Grosso modo, le format de ces bandes dessinées-là, c'est des petites anthologies. C'était 3-4 histoires en bandes dessinées, des espèces d'histoires d'horreur ou d'épouvante avec une morale à la fin et tout ça. Donc, ça avait été extrêmement populaire. Et ensuite, à la fin des années 80, plus précisément de 89 à 96, ben, il y a HBO qui a décidé de convertir les histoires qu'on retrouvait dans ces bandes dessinées-là de Tales from the Crypt en série télé. Donc, cette série télé-là a été extrêmement populaire dans l'industrie américaine parce que le concept était le fun, ça permettait vraiment de raconter vraiment une petite anthologie d'histoires d'horreur et d'épouvante, puis tous les acteurs et tous les réalisateurs populaires des années 80-90, tu sais, il y a des gros noms qui jouaient là-dedans, qui réalisaient ça, même je pense que Schwarzenegger a réalisé un épisode à une certaine époque, tu sais, alors ça a été très très populaire jusqu'à la fin en 1996. Puis cette série télé-là de HBO était tellement populaire que ça a créé des petits rejetons, comme par exemple en 1993, ben il y a eu une série de dessins animés du samedi matin, inspirée de Tales from the Crypt, qui en était carrément un produit dérivé, qui s'appelait Tales from the Crypt Keeper. Chaque épisode était une petite histoire dans laquelle il y avait un petit peu d'épouvante, dans laquelle des enfants étaient impliqués. Et en tout cas, whatever, ça a duré pendant deux saisons. Après ça, bon, malheureusement, ça a disparu des ondes.
Tragiquement.
En 1996, toujours dans la foulée, bon, de la popularité de la série télé, il y a eu, attention, tu sais, attache bien tes bretelles, il y a eu une émission intitulée Secret of the Crypt Keeper's Haunted House. Tu sais, c'était une espèce de série de jeux d'épreuves pour enfants et tout ça, dans lequel le fameux personnage du Crypt Keeper, c'est-à-dire vraiment notre hôte à chaque début des épisodes de Tales from the Crypt, était là, faisant entrer des jeunes dans une salle où est-ce qu'il y avait des défis à relever, un peu comme dans les zigotos. Ça aussi, malheureusement, ça n'a pas été un grand succès. Contrairement à la série télé d'origine, ça a duré une saison, après ça, ça a pris le bord. Mais pour ceux que ça intéresse, tous les épisodes sont sur YouTube, pour au moins vous donner un petit peu un look and feel de ce que ça faisait. Pour en arriver au point où ce que je voulais arriver, c'est qu'avec le succès de la série télé Tales from the Crypt, qu'on pensait que ça arrêterait jamais, mais les producteurs ont décidé de se mettre au cinéma, c'est-à-dire de produire des films avec le sceau de Tales from the Crypt. Donc, c'était pas mal un épisode de Tales from the Crypt, mais boosté à peu près 90 minutes, dans lequel on retrouvait les tropes de chacun des épisodes. C'est-à-dire, le film commençait avec une introduction par le gardien de la crypte, cette espèce de marionnette un peu squelettique qui passe son temps à dire des mauvais jeux de mots, puis introduit vraiment le début du film. Par la suite, il y avait plein d'acteurs connus là-dedans. Puis c'était vraiment des histoires de tout genre confondues, vraiment où est-ce que l'horreur, le gore, le suspense et l'humour noir et la comédie se mélangeaient exactement comme dans n'importe quel épisode de la série télé. Dans les années 90, le plan original, c'était de faire une trilogie. Alors, le premier film qui existe vraiment, c'est intitulé en 95 Demon's Knight, c'est-à-dire le chevalier du démon, dans lequel ça met en vedette Billy Zane, qui est formidable là-dedans, Jada Pinkett Smith, puis une excellente distribution. Aussi, il y a William Shatner, acteur très connu, qui fait notre protagoniste là-dedans. Vraiment le fun. Par la suite, il était supposé avoir un deuxième opus, une histoire de zombie qui était supposé être située en Nouvelle-Orléans, qui devait s'appeler Dead Easy, et ça devait se conclure en 97 ou 98 avec le troisième film de la trilogie qui devait s'appeler Body Count, qui n'a jamais été produit finalement à cause, bon, de l'insuccès commercial au box-office des deux premiers opus produits sous la bannière de Tales from the Crypt. Alors, ben, c'est ça. Donc, nous autres, ben, on parle de ce deuxième opus-là parce que, ultimement, le fameux Dead Easy n'a jamais existé et les producteurs ont plutôt décidé d'y aller avec un scénario un petit peu moins coûteux qu'était celui de Demon's Night et ils ont été avec quelque chose qui s'appelle Bordello of Blood, la reine des vampires, dont on va parler aujourd'hui. Es-tu d'accord?
Oui, s'il te plaît.
Génial. Bon, moi, je vais peut-être y aller pour nous mettre dedans et nos auditeurs également qui n'ont jamais vu le film. Ben, je ferai un petit résumé de l'histoire extrêmement simple pour vous donner un peu la grande prémisse. En premier, bon, on y va comme suit, c'est suite à la disparition de son frère Caleb, ben, sa sœur aînée, nommée Catherine, embauche Ralph Gutman, un détective privé, afin qu'il retrouve Caleb. Donc, tous les indices étranges et surnaturels découverts par Gutman pendant son enquête pointent vers une maison funéraire qui dissimule un bordel occupé par des séduisantes vampires et leur patronne Lilith, belle à littéralement s'en arracher le cœur. Donc, bon, le début du film, l'élément déclencheur, c'est ça, c'est Caleb, dans le fond, qui est supposé être un jeune adolescent rebelle qui est joué par un acteur qui est Corey Feldman. Corey Feldman, tu sais, qui s'est fait très connaître dans les films d'horreur pour être, admettons, le tout premier Tommy Jarvis dans Friday the 13th, qui était un des frères Frog aussi dans, c'était quoi, c'était Lost Boys, c'est
Lost
ça?
Lost Boys,
puis qui a repris son rôle des années plus tard dans Lost Boys 2. Donc, c'est ça, il s'en va avec une gang d'amis, puis c'est des rebelles, tout ça, ils s'en vont se saouler dans un bar, puis à un moment donné, ont très envie d'aller baiser. Et ben, il y a quelqu'un qui entend ça, une espèce de personnage un peu étrange qui est un espèce de mélange d'un motard, de Rob Zombie, puis de Mike Ward. Alors, ce gars-là, ben, on va apprendre un petit peu plus tard, ben, en fait, c'est un divulgateur, mais c'est un genre de ghoul qui est à l'emploi du bordel pour essayer de recruter des clients potentiels pour, ben, les amener dans la gueule du loup et les amener dans ce bordel-là. Alors, moi, j'ai envie qu'on écoute pour se mettre dedans un petit extrait qui va nous montrer la première intervention de ce motard-là au auprès du groupe de Caleb. Alors, on écoute ça ensemble, Pierre?
Ah oui.
Trinquons à une bonne baisse, qui se fera tôt ou tard. Trinquons à des chouettes nanas qui couchent et qui vous attendent. Et les potes, j'ai une bonne adresse pour ce genre de sport.
Vas-y, on t'écoute.
Vous y trouverez les meilleures chiennes de toute cette putain de ville. Les meilleures salopes du monde sont à vous. Elles vous font les trucs les plus cochons. Les trucs dont vous n'avez jamais entendu parler.
Et si t'allais te faire foutre?
Et je te parle d'une baisse si forte, si vicieuse, que tu seras à peine capable de ramper 3 jours plus tard.
Ouais, d'accord, d'accord. Ce serait plutôt intensif, c'est bien ça?
325 poumons. Et tu dis, je voudrais assister à la veillée des corps.
Eh ben, ce ghoul, c'est d'une politesse incroyable, honnêtement. Là, c'est, j'espère qu'il n'y a pas de nos auditrices qui sont offensées par les propos de ce gars-là.
En même temps, s'il y a des gens qui sont offensés par ces propos-là, c'est un peu leur droit. C'est inapproprié, ce qu'il dit.
Ça marche quand même. Écoute, ça a donné le pitch de vente pour que, ben, au moins, qu'il y a deux personnes qui aillent, c'est-à-dire Caleb, puis un de ses potes qui s'appelle Reggie, si je ne m'abuse, aussi, qui a très envie de baiser ce soir-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment on arrive dans ce bordel-là. Tu t'en souviens?
Très bien, oui.
C'est quoi déjà? C'est que finalement, ils arrivent dans un salon funéraire, ils sont accueillis par une espèce genre de, on dirait une espèce d'ancien nazi, oui. Qui est le tenancier du bordel. Et là, bon, au lieu de les faire descendre par un escalier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer les deux dans un cercueil.
Au bout, à la pointe d'un fusil.
Parce qu'une fois que t'es rentré, tu peux pas sortir exactement. T'es obligé d'aller dans ce bordel-là. Et là, par la suite, tu rentres dans un cercueil, tu t'en vas dans le crématorium à la place de brûler. Ben, tu descends par une trappe secrète qui t'amène au sous-sol où est-ce que le bordel est là. On se croirait vraiment en pleine luxure, en orgie romaine, effectivement. Et ben les deux gars sont accueillis par des superbes créatures absolument merveilleuses qui les amènent immédiatement dans des chambres pour commencer à s'amuser avec. Et ben on va rencontrer, chacun d'eux va rencontrer la charmante Lilith, la tenancière, dont on va parler un petit peu plus tard, ok? On va commencer par parler des personnages, Pierre, ok? Un petit peu, on va grosso modo donner un peu nos impressions sur chacun d'eux. Je vais tout de suite commencer avec notre fameux détective, dans le fond, le personnage principal, Ralph Gutman, qui est joué par l'humoriste américain Dennis Miller, qui, bon, dans la vraie vie, est un trou de cul notoire absolument incroyable. Je vais te conter certaines anecdotes là-dessus. Mais dans le film, il est super sympathique, je trouve. Moi, je le trouve vraiment sympa, ce détective-là. Tu sais, c'est un détective de complètement de seconde zone, qui a l'air, tu sais, de sortir un peu de chez la chienne à Jacques, qui habite dans une salle de cinéma désaffectée. Donc, c'est-à-dire le gars sympathique, mais qui a pas l'air d'avoir une très grande crédibilité, tellement qu'à chaque fois qu'il donne sa carte d'affaires, il demande à la récupérer, parce que je suis pas mal sûr que c'est la seule carte qui s'est faite imprimer ou qui lui reste, puis elle est toute chiffonnée. Alors, c'est pas évident. Comment tu le vois, toi?
J'aime beaucoup comment il y a la réplique facile, comment l'humour est son outil, son arme principale, mais en même temps, ça le sabote. Probablement que c'est sa grande gueule qui a causé son divorce, puis sa grande gueule qui l'antagonise autant par rapport aux forces de police puis tout ça. Donc beaucoup de personnes ont eu au moins une journée comme ça où ils disent, ah, j'aurais dû me taire, mais au moins je suis drôle. Donc,
il peut trouver le confort là-dedans.
On peut se reconnaître un peu, parfois, dans ce personnage-là.
C'est ça, moi, c'est beaucoup l'humour, comme tu le mentionnes, qui, selon moi, le rend sympathique. Tu sais, à un moment donné, comme je te dis, ce film-là m'a tellement influencé que je pense en 6e année, des fois, j'avais emprunté des répliques que je glissais dans mes phrases, dans mes discours, moi-même, quand je parlais à quelqu'un, puis tout le monde me regardait en disant, tu sais que ça sort, ça m'arrête de parler de même. En tout cas, peu importe. Tu disais qu'il y a beaucoup l'humour facile, la réplique facile. Ben, c'est comme je disais, en anecdote derrière scène, ben, il y a le comédien Dennis Miller qui l'interprète. 3/4 du temps, il se fiait pas au scénario pour ses répliques, vraiment il les improvisait. Alors au départ, le réalisateur puis le scénariste trouvaient ça bien sympathique, mais quand ils ont vu qu'il continuait à faire ça pendant tout le tournage, bon, maintenant ils ont arrêté de le répimander, ils ont juste fait OK, fais ce que tu veux. Fait que je pense que c'est peut-être une bonne chose qui en est sortie.
Oui, quand même.
Bon, maintenant on va passer, avant qu'on fasse la rencontre vraiment formelle de ces deux-là grâce à un extrait, on va parler de la charmante Catherine, carrément la grande sœur de Caleb. Elle, c'est complètement l'opposé de son frère. Tu sais, son petit frère, lui, c'est le gars un peu punk, punk, très rebelle, qui écoute de la musique métal à tue-tête. Elle, bon, c'est la grande fille sage, la grande sœur sage qui travaille pour, dans le fond, une espèce d'église, une espèce de révérend un peu gospel. Donc, je pense qu'il est son attaché de presse ou son assistante personnelle, quelque chose du genre. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air très droit, très à cheval sur les principes, peut-être un peu, comment dire, Sainte Nitouche sur les bars, quelque chose du genre. Catherine est jouée par l'actrice Erika Eleniak, qu'on a pu voir dans plein de trucs. D'ailleurs, je vais te cuisiner tantôt sur quelques-uns de ses rôles. Vous allez voir, chers auditeurs, que...
Cuisiner ou me passer à la casserole.
Ah, on va passer à la casserole. Puis, c'est ça, enfin, chers auditeurs, vous allez vous rendre compte que ben, Erika Eleniak, sans connaître son nom, vous l'avez assurément déjà vu dans plein de films que vous avez connus par le passé. Quelque chose à ajouter là-dessus? Hein?
Moi, j'ai l'impression qu'elle pousse tellement fort que c'est... j'ai l'impression qu'il y a peut-être un passé un peu sombre derrière ça.
Écoute, il y a... peut-être que tu connais ce passé-là, mais je vais le révéler à nos auditeurs tantôt, OK? Ouh. Parce que quelqu'un de si droit dans la vie, de tellement sur le droit chemin, c'est clair que psychologiquement parlant, il y a un traumatisme, il y a quelque chose dont elle est pas fière dans sa vie, probablement le contraire de ce qu'elle est, puis elle en a eu sa leçon, alors elle a décidé de faire un 180 degrés et de carrément se tourner vers un autre le chemin de la droiture, de la morale. Mais je vais vous l'apprendre tantôt, chers auditeurs. Il y a un petit background assez intéressant chez ce personnage-là. On a parlé des deux, de Raph et Catherine. Ben moi, Pierre, via un petit extrait, je peux peut-être te montrer, et à nos auditeurs également, leur première rencontre. Donc, Catherine vient de sortir d'un poste de police pour aller déclarer la disparition de son frère. La police veut rien savoir. C'est une bande d'incompétents. Elle se fait dire que, regardez, j'ai 400 dossiers à traiter avant celui de votre frère. Ça va attendre. Et là, Gottman était dans la salle d'attente du poste de police, a remarqué que Catherine était un peu dans tous ses états, l'a suivi, l'a proposé de venir faire affaire avec son agence, et les deux s'en vont dans le bureau de Gottman, qui est effectivement une salle de cinéma désaffectée. Alors voici ce que ça donne leur entretien.
Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un gâteau, des pop-corns, un Prozac?
C'est déjà fait.
Alors, c'est votre frère, mon Dieu. Wow! Même parent? je peux la garder?
J'en ai un double.
Je m'en ferai un médaillon, ça sera très joli.
Ce petit numéro va me coûter combien?
150 par jour, plus les frais.
Je savais que j'avais fait une bêtise.
Non, attendez. Vous allez pas m'en faire un fromage. Offre spéciale du jour, 50% sur les frères disparus. Ça va?
D'accord.
Excusez-moi. Allô? Gutmann Investigation et Gutmann, c'est moi. Oh non, tu vas pas me gonfler. Oh, tu fais chier, qu'est-ce que t'as encore? Tu sais que je me rappelle que le fait de m'être marié avec toi a bien failli me rendre homosexuel. Je vais y aller, au revoir. Hé, hey, où vous allez? Un truc vous fait flipper?
Non, tout va bien. Vous inquiétez pas, je vais vous dédommager.
Non, mais je veux pas être payé pour mes beaux yeux, je veux être payé pour mon enquête. Vous n'avez pas le choix, Catherine. Je suis votre seul allié.
Donc, ben les deux ont pas l'air vraiment de pouvoir bien se sentir, quoique Gottman a l'air quand même avoir des yeux et certaines vues sur Catherine. Elle en a rien à faire, elle veut vraiment juste qu'il soit professionnel et ben qu'elle retrouve son frère. Quel autre personnage clé on a dans ce film-là? Ben, qui dit un film de vampire, dit probablement un prêtre, un révérend ou quelqu'un au moins qui va tenir une croix puis dire genre une couple de versets de la Bible là-dedans. Border of Blood fait pas exception à cette règle-là. Et on a notre personnage de révérend, le révérend Jim Current, JC, pour faire court. Alors, Jesus Christ, peu importe ce qu'il veut, je sais pas si c'est un complexe de supériorité, qui est joué par le très sympathique Chris Sarandon, qu'on a vu dans plusieurs rôles. Et pour les plus jeunes d'entre nous, c'est lui qui fait la voix de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et aussi, il joue un autre rôle très connu dans les années 80, dont je vais vous parler dans très peu de temps. Lui, ce qui est drôle, Jim Current, bon, c'est le révérend, très gospel, très selon le modèle américain, très tape à l'œil, tu sais, c'est pas l'homme d'église, tu sais, de peu de moyens qui va faire vraiment acte de pauvreté, quelque chose du genre. Lui, c'est un foutu télé-évangéliste de la pire espèce, honnêtement, qui, dans ses sermons, demande des dons à chaque fois pour, genre, enrichir son église, pour propager la parole du Christ, un peu faussement, pour se vautrer dans le luxe. Puis, dans la première scène qu'on va écouter ensemble, on le voit carrément dans son espèce genre de complexe, parce qu'il prêche devant ses brebis, puis c'est le gros show gospel avec l'orchestre, il se met à jouer de la guitare, comment dire, c'est ça, c'est l'homme d'église, mais tellement riche et tellement comme vaniteux.
Il fallait. Puis j'aime bien le nom de famille aussi, parce qu'il est il est pas à l'ancienne.
C'est vraiment Current, c'est courant. Ça, oui, absolument. Ben c'est le nom de son église aussi, je pense que c'est The Current Church, quelque chose du genre, The Current Movement, alors voilà, il veut être actuel, ben il est très très bien. Alors, je vous propose une petite présentation. On va aller voir Jim Current pendant un de ses sermons. Et c'est parti.
Et alors, vous les bonnes brebis, oui, vous qui êtes en quelque sorte les entrailles et les organes et le vrai cœur de l'Église que moi, Jimmy Curran, je pousse vers Jésus, vous le prierez avec moi. Oui, vous saurez mener les autres, vous les guiderez vers le Seigneur et nous chanterons sa gloire ensemble. C'est ce que j'ai dit. Gloire à lui, alléluia. Oui, gloire à lui, alléluia.
Praise the Lord, comme on dit. Et ben moi, je peux peut-être... On a parlé des rôles de Corey Feldman puis de Chris Sarandon là-dedans. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que c'est sûrement conscient, un choix de casting conscient, OK? Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ça fait un peu partie de l'humour Tales from the Crypt, je dirais, c'est il y a une inversion des tropes de ces personnages-là. Corey Feldman, lui, a été très connu dans les années 80 pour, comme je disais tantôt, avoir joué Tommy Jarvis, c'est-à-dire le petit garçon qui survit à Jason Voorhees dans Friday the 13th, quatrième partie de Final Chapter. Comme on parlait, Chris Sarandon, lui, est très connu pour avoir joué le personnage de Jerry Dandridge dans...
Fright Night,
vampire, vous avez dit des vampires, qui était le séduisant vampire, honnêtement, qui débarque. Et là, on a une inversion. Feldman a toujours joué les héros, en plus, dans Lost Boys, il jouait un des frères Frog, un chasseur de vampires. Et là, Feldman, enfin, il interprète un vampire là-dedans. Et Sarandon, lui, qui jouait un vampire, c'est-à-dire le chef des vampires dans Fright Night, ben, joue maintenant un homme d'église. Alors, je trouve ça, bon, c'est une petite observation que je trouve amusante et sympathique, honnêtement. Des petites inversions comme ça, c'est marrant pour les gens qui connaissent un peu les rôles de ces deux acteurs-là. On parlait de Jim Curran. Lui, ce qui est drôle, c'est que tout le long du film, il va être accompagné par un peu son homme de main, version de poche si on veut. Il est accompagné par Vincent qui est un de ses assistants, qui est un petit bonhomme, c'est-à-dire une personne de petite taille qui est son assistant. Mais moi, enfin, j'arrive au personnage dont je voulais parler, c'est-à-dire la reine des vampires elle-même, c'est-à-dire Lilith. Qui est jouée par la femme de mes rêves, Angie Everhart, une superbe rouquine d'une beauté absolument incroyable, qui à l'époque était connue sous le nom de Madame Sylvester Stallone. Mm-hmm. En plus, c'était, qu'il était en train de se fréquenter ou il était sur le point de devenir mari et femme. De toute façon, tu peux facilement reconnaître dans les années 80-90 toutes celles qui étaient les épouses de Sylvester Stallone parce que Stallone avait comme petit fétiche, si je peux appeler ça de même, d'offrir comme cadeau de mariage des implants mammaires à ses copines. Alors, Bridget Nelson a eu une poitrine complètement dédoublée après Stallone et c'est la même chose pour Angie Everhart. Donc, en tout cas, c'est très amusant de ce côté-là. Alors, c'est...
Un peu creepy aussi.
Ouais, aussi, effectivement. En tout cas, que je sais pas qu'est-ce qu'il leur disait pour les convaincre de subir cette procédure-là. Mais en tout cas, on peut rien refuser à Rocky Balboa, hein, ou simplement. Mmh. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur elle? Ben, en fait, Angie Everhart à l'époque avait été vraiment recommandée au producteur par Stallone, qui avait un petit peu de lobbying parce qu'Angie, elle, c'était plus un mannequin à l'époque. Elle faisait beaucoup de couvertures de Sports Illustrated et des affaires de main. Elle avait très peu touché à l'acting et Stallone, bon, l'a fortement recommandé. Finalement, les producteurs ont accepté. Elle avait vraiment le physique de l'emploi, était capable d'interpréter les nuances du rôle sans aucun problème. Et ben d'après moi, pour un premier rôle, elle fait parfaitement la job là-dedans, honnêtement. Je la trouve efficace et mon Dieu, qu'elle est magnifique, cette fille-là. Puis en plus, écoute, j'ai un petit souvenir vraiment de Deep Cut pour toi, m'amener, j'étais avec une de tes anciennes copines. Maintenant, elle m'a demandé, Seb, si on se fait genre un top 10 de tes femmes que tu trouves les plus belles dans ta vie, genre, ce serait quoi? Là, finalement, j'ai improvisé un top 10. Puis la première, le numéro 1, c'était Angie Everhart, carrément. Ooh. Puis en plus, maintenant, je pense qu'elle frôle bientôt la cinquantaine. Et mon Dieu, allez voir à la maison des photos d'elle. Elle a pas changé, honnêtement. Elle a vraiment pris soin d'elle. Elle est encore plus magnifique que dans les années 90, parce que dans ce film-là, je pense qu'elle était au tout début de la trentaine, quelque chose du genre, et elle est... à couper le souffle, elle est fatale. Et mon Dieu, Angie. Ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est le personnage de Lilith a une certaine classe là-dedans, parce que bon, toutes ces sbires, toutes les prostituées vampirisées, on les voit nues. Tandis que Lilith, elle ne se dénude pas dans le film. Ça lui apporte une certaine classe. Ça, c'est la matrone et un petit peu inaccessible, parce qu'une tenancière de bordel, c'est toujours la femme inaccessible, la plus belle dans le fond, que tu ne pourras jamais avoir. Alors, je suis content de voir un peu que ce cliché-là est respecté. Et honnêtement, pour être magnifique dans ce film-là, ben, Angie Everhart, Bart in extenso, son personnage, a pas besoin de se dénuder.
Ben, pour donner une meilleure idée à nos auditeurs de qui est vraiment Lilith, on peut peut-être utiliser un extrait qui va démontrer un peu le côté séductrice qu'elle possède. À ce moment-là du film, elle se rend compte que Gottman tourne pas mal autour de son bordel puis de ses activités. Alors, elle décide d'aller le rencontrer dans son appartement et elle va lui faire un petit deal. Donc, plutôt que de le tuer, elle va essayer de faire en sorte qu'il se joigne à elle pour, dans le fond, qu'il devienne des collaborateurs dans les grosses activités de Lilith. Alors, on écoute un petit peu ce que ça donne.
Qui êtes-vous?
Je m'appelle Lilith. Et vous avez oublié ceci. C'est pas très gentil de laisser une fille s'accrocher pour rien.
Oui, c'est vrai. Je tâcherai de me faire pardonner quand je repasserai.
Il ne s'agit pas d'elle. Je parlais de moi. On s'est croisés quand tu montais l'escalier. Et dès que je t'ai vue, j'ai su que tu n'étais pas comme les autres.
Je parie que tu dis ça à tous les mecs, Lilith.
Oui, mais ce coup-ci, je le pense.
Écoute, chère Lilith... Je suis pratiquement sûr que tu es le genre de femme qui connaît l'expression « prête à tirer » et c'est très exactement l'état dans lequel se trouve ce flingue.
Tu ne voudrais pas tirer sur ces jolis seins, n'est-ce pas? Vas-y, touche-les. Ils t'attendent.
Je dis pas que ce sont pas les nibards du siècle, seulement j'accroche pas trop avec leurs propriétaires. Arrête de les mettre en avant. T'es pas mon type.
Pierre, on a fait un petit peu le tour des acteurs principaux de ce film-là, de leurs personnages. Et moi, j'ai envie de revenir sur la charmante Erika Eleniak. Pierre, es-tu prêt? Pierre Tachereau, tu deviens l'un des concurrents au prestigieux jeu questionnaire « Devine le rôle d'Erika ». Les règles sont bien simples. Tu dois deviner quelques-uns des nombreux films et séries télé dans lesquels Erika Eleniak a tenu l'affiche depuis les années 80. Si tu trouves les bonnes réponses, eh bien tu repars à la maison avec un lave-vaisselle et le respect inconditionnel de nos auditeurs. Es-tu prêt?
Si je perds, il arrive quoi?
La mort.
Encore.
On y va. Première question, Pierre Tachereau.
Oui.
Dans quel film d'horreur de 1988 elle interprétait une jeune femme saoule sauvée in extremis par une créature blobuleuse de probables attouchements inappropriés de la part d'un garçon avec qui elle passe la soirée?
Bien, mon guess serait The Blob.
Bravo, Monsieur Tachereau. Bonne réponse. On y va maintenant, on monte d'un cran de difficulté. De 1989 à 1992, elle faisait partie d'une escouade chargée de protéger les citoyens des nombreux dangers d'une baignade à la plage. Cette escouade composée de plantureuses femmes avait pour habitude d'aller à la rencontre du danger en courant très au ralenti. De quelle série télé s'agit-il?
Baywatch.
Félicitations, deuxième bonne réponse, et oui, elle a joué dans Baywatch, dans lequel elle interprétait le rôle de Shawnee McClane, aucune relation avec John McClane de Die Hard. Troisième question, et non la moindre, es-tu prêt?
Oui.
Dans quel film de 1992 se retrouve-t-elle au cœur d'une prise d'otage navale avec pour seul allié un homme disant n'être qu'un modeste cuisinier?
Ah, on parle de celle-là où elle sort d'un gâteau!
Exactement!
Cuirassé en péril!
Tu es notre gagnant Under Siege avec Steven Seagal. Écoute, on n'a plus rien à t'apprendre sur les rôles d'Erika Eleniak. Hey, on va revenir à nos moutons Bordello of Blood. Peut-être parler un petit peu du contenu du scénario. Au départ, ce scénario-là, la première version, a été écrite par Robert Zemeckis, le célèbre réalisateur, admettons, de la série Back to the Future et plein d'autres films comme ça. C'est un scénario qu'il a écrit avec le co-scénariste également de la série Back to the Future. Ils ont écrit ça quand il était à l'université. Finalement, bon, les producteurs de Tales from the Crypt cherchaient un film adapté. Finalement, Robert Zemeckis, qui était un producteur de longue date de la série de films et de la série télé, ben, est arrivé avec ça, a sorti de son bac de récupération ce scénario-là. Ils ont décidé par la suite de le prendre, de le réadapter, puis ultimement, bon, de le tourner, ce qui est devenu vraiment Bordello of Blood. Écoutez, le scénario, bon, contient plusieurs ingrédients. Bon, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Parce que moi, au départ, quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment avoir affaire quand, la première fois que j'ai vu ce film-là, avec ma patate graisseuse à côté de moi et mon verre de coke, je pensais vraiment à un film d'horreur vraiment hardcore, parce qu'au début, la première scène, là, il y a du gore dans cette scène-là, et moi, je pensais vraiment que ça allait être du gore hardcore tout le long, mais finalement, ça devient une comédie d'horreur plus on regarde le film. Ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque-là, je pense que je connaissais très peu le concept de comédie d'horreur. Je pense que le seul autre film un peu qui se rapportait à ça, c'était Army of Darkness avec Bruce Campbell. Aussi, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-références à l'univers Tales from from the Crypt. Pierre, si je fais un autre petit quiz avec toi, te souviens-tu d'une ou deux références?
Oui, plusieurs. La clé qui contrôle Lilith est la même clé qui contient le sang du Christ dans Demon Knight.
Demon's Knight, exactement. Il y a une petite continuité là-dedans, en effet.
Il y a un poster du film Demon's Knight dans la chambre de Caleb.
Exactement. Je peux peut-être enchérir aussi avec d'autres choses. Je parlais du ghoul tantôt, dont on a entendu l'extrait. Ben, il y a un tatouage sur le bras gauche et c'est un tatouage du Crypt Keeper, du gardien de la crypte qu'on voit dans l'ouverture du film, personnage très célèbre qui a été introduit dans la série télé en 1989. Côté scénario, regarde, moi j'aime toujours ça, essayer de temps en temps d'enculer des mouches, c'est-à-dire de trouver des petits trucs que moi j'aurais améliorés, tu sais, qui font pas vraiment de sens dans le film. Moi, ce qui me fait rire, c'est le fameux plan de Jim Current. Parce que, attention, un autre divulgateur, les amis à la maison, c'est que l'entreprise que Lilith possède, c'est-à-dire cette espèce de bordel-là qui est dissimulé par une maison funéraire, tout ça est orchestré par Jimmy Current dans le but de booster les recettes de son église et de chasser un peu les pêcheurs libidineux de sa ville. Pierre, je peux peut-être y aller avec un petit résumé du plan de Current comme on le voit dans le film. Okay, c'est-à-dire, c'est quoi son scénario? C'est quoi son but d'avoir fait ça? Okay.
Explique-moi ça.
Le plan de Current, au départ, c'est envoyer Vincent pour aller trouver Lilith en plein milieu de l'Amazonie et, bon, de la ressusciter. Okay? Ensuite, bon, il confie à Lilith l'ouverture du bordel, c'est-à-dire la gérance du bordel aussi, puis la vampirisation des filles qui y travaillent. Après ça, ça résulte au meurtre des clients. Parce que vous allez le voir dans le film, les amis, les clients s'en sortent pas vivants. Ils meurent de façon horrible, horrible. Et par la suite, ce qui se passe, c'est que Lilith, ainsi que ses vampiresses, si on veut, ben, vont s'approprier les biens personnels, c'est-à-dire l'argent de ces clients-là, les cartes de crédit, probablement les cartes bancaires, ainsi que vendre leur voiture pour être capable, bon, de financer leurs opérations. Mais l'argent de ça s'en va aussi à Jimmy Current, donc c'est là où est-ce qu'il est capable vraiment de financer son église avec les dons également de ses brebis. Après ça, comment ils font pour être capables de disposer des nombreux cadavres des clients du bordel? C'est là où la maison funéraire embarque en jeu, c'est qu'ils vont camoufler les cadavres à l'intérieur des cercueils qui vont se faire enterrer par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on va voir à plusieurs moments du film des porteurs de cercueils qui ont l'air vraiment avoir de la misère, que le corps à l'intérieur a l'air de peser une tonne. Ben, il pèse une tonne parce qu'il y a 2-3 cadavres dedans, en plus de celui de la personne qui est défunte et tout ça. Tout le monde est content, le bordel fonctionne et est financé. Lilith a un but. Elle est contrôlée par Current carrément avec la fameuse clé qu'on a vue dans Demon's Knight. Aussi, bon, Current est très heureux parce qu'il y a des pêcheurs de moins dans sa ville et voilà.
C'est foireux comme plan.
C'est foireux parce que il y a du marketing 101 qui est pas respecté là-dedans. Okay, c'est là où on encule des mouches. Moi, je commence avec le fameux point où est-ce que les clients rentrent, se font tuer et par la suite, bon, leurs biens sont dérobés, les voitures sont vendues. Moi, ce que je trouve drôle, c'est pourquoi tuer les clients quand tu peux leur donner du bon temps, tu peux les faire payer, puis après ça, ils peuvent revenir rechercher ce bon temps-là, puis payer encore. Mm-hmm. T'sais, ils payent pas une fois, t'sais, on s'en fout de ce qu'ils ont sur leur carte de crédit ou de vendre leur vieille minoune. T'sais, tu peux les faire revenir anytime. C'est ça qui est le fun, dans le fond. Comme ça, ta clientèle est plus grosse, puis t'as pas besoin d'envoyer une espèce de ghoul fucké pour essayer d'aller dans des bars, recruter n'importe quel gros dégueulasse ou n'importe quoi. Dans le fond, tu peux te créer une clientèle solide et qui va payer le prix. Je trouve que c'est une meilleure source de financement.
Oui, c'est l'offre et la demande. Ouais. Dans les deux cas, l'offre et la demande sont très fortes.
Exactement. Enfin, pourquoi tuer des clients? Tu sais, je sais que c'est des vampires qui ont besoin de se nourrir, mais à m'amener, regarde, t'es pas obligé de tuer tout le monde de manière super gore. Aussi, l'autre affaire que je voulais dire, c'est, tu sais, pour disposer les cadavres carrément. Comme je disais tantôt, bon, ils vont mettre les cadavres, les corps, dans des cercueils de gens qui se font déjà enterrer puis exposer dans ce salon-là. Pourquoi pas juste les brûler dans le fond?
Ils ont un incinérateur sur place.
Exactement. Pourquoi pas juste les brûler, aussi simple que ça, dans le fond. Parce que, en ce cas, ça enlève toutes les suspicions, ça enlève aussi le fait que quelqu'un comme Gottman ait enquêté, qui ouvre un cercueil, puis qui découvre un paquet de cadavres à l'intérieur, genre, d'un seul cercueil. Tu sais, comment, c'est plus subtil, honnêtement. Pour continuer à enculer des mouches, moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est un petit peu le syndrome d'Indiana Jones là-dedans. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de théories de gens qui veulent s'amuser un petit peu, qui disent que Raiders of the Lost Ark, le premier Indiana Jones, si Indiana Jones fait rien dans ce film-là, le film finit pareil. C'est-à-dire que les nazis ont l'arche, mais se font défaire par l'espèce de pouvoir de l'arche qui fait fondre vraiment genre les faces puis exploser les têtes. Si, admettons, Gottman puis Catherine sont pas là, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans le film? Parce qu'ultimement, tu sais, à la fin, il y a Jim Curran qui se joint à ces deux-là pour faire comme « Allez, connectez-vous sur les ondes et apprenez au monde entier qu'il y a des vampires dans notre ville et tout ça. » Mais on s'en fout parce qu'ultimement, les enjeux sont tellement bas, sont tellement à petite échelle, tu sais. Honnêtement, ça change-tu quelque chose au monde qu'il n'y ait plus le bordel avec des vampires dedans?
Non, ça change pas grand-chose, mais il faut Lilith est quand même un petit peu mégalomane, fait que...
Mais on le sent pas, parce qu'à un moment donné, on va voir l'extrait dans quelques instants, à un moment donné, elle est libérée de l'emprise, de la clé et de Current, mais j'ai pas l'impression, parce qu'elle dit jamais que maintenant on va contrôler le monde, se répandre et manger tout le monde, vampiriser tout le monde. Non, elle a tellement juste l'air heureuse puis bien contente du statu quo, de tout simplement gérer son bordel et de le gérer à sa manière, le kit. Je pense même pas que si les héros sont pas là, on s'en fout, la Terre continue de tourner, tu sais.
Si je me rappelle bien, il y a juste un vague sous-entendu comme quoi elle a peut-être l'envie d'étendre ses opérations, mais c'est
oui, mais c'est à des clubs de striptease, genre, oui. Elle fait comme, là, on devrait étendre nos opérations à des clubs de striptease, tu sais.
C'est tout.
C'est ça, aussi simple que ça. Tu sais, je suis sûr qu'elle ferait un malheur au Nevada où est-ce que les clubs de striptease, la prostitution, c'est légal, là, tu sais. Mm. Simple que ça. Je pense que finalement, on vient de se priver de divertissement pour adultes assez solide. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais que voulez-vous? Apparemment, il y a une morale à ce film-là.
Oh, et la possibilité d'être immortel, qu'il ne faut pas jamais négliger.
Satisfait sexuellement et immortel, franchement, ouais. Ça se refuse pas, ça. Mais en tout cas, donc on parlait du fait que Lilith, bon, va finalement essayer de brainwasher un petit peu Vincent, le bras droit de Jim Current, pour essayer de faire en sorte que, bon, il perde l'emprise sur Lilith et qu'il, dans le fond, la relâche et qu'elle puisse vraiment, tu sais, voler de ses propres ailes et dominer vraiment comme sa propre vie, ses propres activités. Je propose qu'on regarde un petit peu cette petite scène-là.
Mais bien sûr.
C'est de la folie, Vincent! C'est l'enfer qui t'attend si tu fais ça!
Détends-toi, révérend. C'est le balai que t'as dans le cul qui te gêne pour sourire. C'est drôle, j'arrive pas à décider ce que je vais faire de toi. Est-ce que je te tue ou est-ce que je fais de toi mon chien et je te mets en laisse?
Vincent! Vincent, donne-moi la clé! Je t'en prie! La clé! Par pitié, dépêche-toi!
Vincent, laisse ce truc dans ta poche, tu entends?
Donne-moi cette clé!
Vincent!
Donne-la-moi et je renverrai cette démoniaque saloperie vers sa pourriture.
Vincent, qu'est-ce que tu décides?
Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps.
Merci, chérie.
Tu sais comment tu peux me remercier? Tue-moi ce connard.
Ce pauvre naze, je préfère qu'il vive. Je veux que cette ordure de Cubini voit bien tout ce que je peux faire quand je suis libre.
Hey, tu sais, Pierre, on parlait un petit peu des doses d'humour noir ou un petit peu déplacées de ce film-là. Mm-hmm. J'ai complètement oublié de te mentionner un des caméos les plus gratuits de l'histoire du cinéma.
Oui.
Faut vous dire qu'il y a un caméo de Whoopi Goldberg là-dedans, tout à fait gratuit. Après une petite scène d'action où est-ce que Raph, dans un hôpital, combat une vampire qui va ultimement exploser au soleil. Ben, il y a une patiente dans la chambre d'hôpital qui se réveille et c'est nul autre que Whoopi Goldberg qui se dit qu'elle aurait dû vraiment prendre une chambre simple pour pas être dérangée.
Ça vous ennuierait de faire un peu moins de bruit? J'aimerais me reposer. Je savais pourquoi je voulais pas qu'on me mette dans une chambre double.
Pourquoi? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit dans ce film-là, honnêtement. Je sais pas si elle devait une faveur à un producteur, au réalisateur, ou je sais pas trop, là, mais...
C'est une bonne question. C'est peut-être parce que, secrètement, c'était une fan et qu'elle voulait absolument faire une apparition dans l'un des Tales from
the Crypt. C'est pas fou du tout, ça. Je suis pas mal sûr que oui. T'imagines si elle avait joué Lilith dans ce film-là? Ça aurait pu être formidable.
Oui. Je la vois très bien dans le rôle.
Parlant de mise en scène, bon, on peut peut-être parler un petit peu du gars qui a commis ce film-là. C'est-à-dire, c'est réalisé par Gilbert Adler. Ça semble peut-être pas vraiment une cloche à beaucoup de monde qui nous écoute, mais ce gars-là, c'est un vétéran de la série télé de Tales from the Crypt des années 80 et 90. Grosso modo, lui, c'est plus un producteur qui, depuis les années 80, produit beaucoup de cinéma de genre, d'horreur, de science-fiction. Même chose pour des séries séries télé aussi d'horreur et de science-fiction. Et ben lui, c'est un des producteurs de la première heure de la série télé Tales from the Crypt des années 80 et a réalisé 2-3 épisodes durant toutes les 7 ans que ça a duré. Et ce soit un petit réalisateur occasionnel. La seule affaire, c'est que bon, je sens que les producteurs ont pris c'est un choix pas très très inspiré, parce qu'au départ, Demon's Night, qui était sorti l'année d'avant, c'est réalisé par un jeune réalisateur qui était très prometteur à l'époque, qui était Ernest Dickinson, qui a fait une très bonne réalisation là-dedans. Mais là, j'ai l'impression que les producteurs ont voulu économiser un petit peu en prenant quelqu'un. En fait, le mot tâcheron, je le trouve un peu trop fort, mais ont pris quelqu'un qui coûterait pas cher puis qui ferait la job. Sa réalisation à Adler, bon, elle est fonctionnelle, elle est serviable, efficace, je dirais pas, parce qu'on voit pas une empreinte visuelle distinctive ou quelque chose du genre. J'ai plus l'impression qu'il s'est occupé de dire aux acteurs quoi faire, de mettre la caméra là, de décider les plans. That's it, on passe à une autre scène par la suite, t'sais.
Au niveau de la direction photo, c'est pas mauvais, mais c'est basic. Ils ont vraiment été avec le plus simple.
C'est ça, je sens, encore une fois, c'est peut-être le plan, parce qu'encore une fois, Tales from the Crypt, ça vient principalement d'une série télé. C'est une esthétique extrêmement télévisuelle, carrément. C'est là où est-ce qu'on sent vraiment dans ce film-là que c'est vraiment un épisode de la série, mais boosté sur 80 minutes. Mm. Tant mieux, le film existe, il a fait une job appropriée, correcte, mais Adler a réalisé probablement une des scènes les plus cool de ce film-là, c'est-à-dire la fameuse scène d'attaque où Gutman et le révérend Curran débarquent avec des fusils à l'eau bourrés d'eau bénite, débarquent dans le bordel et fusillent des vampires à coups d'eau bénite. Mm-hmm. Elle est mémorable, cette scène-là, simplement à cause de la musique qui a été choisie pour accompagner cette scène-là, c'est-à-dire la fameuse tune Ballroom Blitz, qui se marie magnifiquement à tout ce qui se passe dans cette scène-là, honnêtement. Moi, cette scène-là, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu ce film-là, je pense que je l'ai rewindé 4-5 fois pour la réécouter, parce que je trouvais qu'il y avait un dynamisme là-dedans. Les acteurs sont cool là-dedans, ont l'air d'avoir du fun. Les effets gore, les effets d'horreur là-dedans, de mutilation de corps, etc., sont assez efficaces, honnêtement. Elle est divertissante, cette séquence. Ça, je trouve que dès que je pense à Border of Blood, je pense effectivement à Angie Everhart puis à cette scène-là d'attaque au fusil à l'eau.
Que le révérend semble apprécier un peu trop.
Qu'est-ce que tu veux, faut bien s'amuser des fois. Alors, il s'est rendu compte que l'eau bénite, ça sert pas juste à être dans des bénitiers à l'entrée puis à la sortie de l'église. Mais là, je viens d'en parler, Pierre. Faudrait qu'on parle un petit peu du gore et des effets spéciaux là-dedans. Parce qu'honnêtement, généralement, mon feeling, c'est que c'est un petit peu un downgrade de tous les moyens qu'avait Demon Knight l'année d'avant. Honnêtement, Demon Knight, c'est un film extrêmement lourd en effets visuels, en effets, comme on dit, en effets pratiques, carrément practical effect, comme on dit en bon anglais, en maquillage, en marionnettes, et etc. Bordello of Blood n'a pas à se sentir mal là-dedans, n'a pas à se sentir inférieur à ça, parce que les effets gore, les maquillages, il y en a en tabarnouche là-dedans, et ils sont efficaces, ils sont vraiment gore. Pour faire une petite liste de quelques-uns des procédés que les vampires utilisent, et surtout l'élite pour tuer du monde là-dedans, on a des cages thoracées couvertes, des cœurs arrachés, des décapitations, des corps qui explosent, des têtes écrasées, des gorges ouvertes, et c'est extrêmement bien fait, honnêtement. Je trouve que les effets visuels, en fait, au niveau de ce qui est prothèses, maquillage, etc., sont extrêmement compétents. On sent que le budget a beaucoup été investi là-dedans, on sent un amour là-dedans, un souci du détail, et même il y en a une couple qui me font encore lever le cœur.
Je dois admettre, en regardant le film avant-hier, j'ai été pris d'une soudaine nostalgie de l'époque où on avait très peu d'effets par ordinateur. La post-prod, oui, mais que le gros des effets spéciaux était pratique, du silicone, du latex, surtout du latex.
Et pas juste sur les poitrines des prostituées là-dedans, c'est ça?
du faux sang, du caoutchouc brûlé, puis des choses qui, bien que fausses, restent organiques en apparence, donc on vienne nous chercher viscéralement qu'on le veuille ou non.
C'est ça, on sent vraiment le tangible là-dedans. Ces choses-là sont devant la caméra, elles arrivent, puis sont pas mal représentatives de comment ça fonctionnerait dans la vraie vie si quelqu'un nous enfonce sa langue dans la gorge pour être capable d'aller nous chercher le cœur puis nous le faire sortir par la cage thoracique.
Par exemple.
Je les trouve créatifs. Je les trouve vraiment créatifs. Le fun est bien exécuté, honnêtement. Bien tourné, etc. Donc, encore une fois, chapeau à Adler et à toute l'équipe derrière les effets visuels pour ça. Puis aussi, ce que j'aime bien, un autre gros effet visuel que moi, j'ai toujours eu du plaisir à voir, c'est la fameuse marionnette du gardien de la crypte au début. Parce qu'encore une fois, comme je le disais, il y a des petits segments d'introduction du gardien de la crypte au tout début à la toute fin du film, et cette marionnette-là, elle est hallucinante.
Elle est magnifique.
Chaque muscle bouge, chaque mouvement de lèvres bouge, etc. C'est pas une marionnette chipette, là. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Tu y crois vraiment que ce personnage-là est là pour t'introduire le film. C'est de toute beauté.
Ah, c'est de la marionnette de haute qualité.
Exactement. Puis même que pour le film, Border of Blood, ils ont donné un petit upgrade pour la moderniser. C'est un plaisir, honnêtement, de juste, des fois, arrêter l'image, de voir vraiment qu'est-ce qui bouge là-dedans, essayer de découvrir où sont les cerveaux moteurs. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont ramené John Cassier, qui faisait la voix originale du gardien de la crypte aussi, qui a énormément de fun. Pierre, on arrive presque à la fin. On a parlé un petit peu des bons côtés, des mauvais côtés de ce film-là. Toi, est-ce que tu le recommandes, ce film-là?
Oui, absolument. Je le recommande pour des gens qui ont la capacité d'éteindre temporairement leur cerveau, mais je le recommande.
Moi aussi, je vais abonder dans exactement le même sens que toi. Par contre, pour que ça passe mieux, moi, je le proposerais de le faire en programme double. Si à la maison, vous êtes des fans d'inviter des amis à la maison et de vous faire une soirée cinéma, film d'horreur, mettez-vous ça dans votre programmation, peut-être avec les Lost Boys, peut-être aussi avec Vampire, vous avez dit Vampire, ou quelque chose du genre. Vous allez revoir les fameuses inversions dont je parlais. Vous allez voir un festival d'effets visuels, puis surtout Border of Blood se tape bien, se consomme très rapidement parce que le film, c'est sans compter le générique de fin, c'est 1h20, à peine 80 minutes. On passe par toute la gamme des émotions, le montage est très très tight, on s'ennuie pas dans ce film-là, on sent pas une scène superflue, on a du plaisir avec les personnages, avec les protagonistes, les antagonistes. Vous allez tomber comme moi sous le charme d'Angie Everhart, vous allez capoter sur les maquillages. Comme je vous dis, c'est pas un film dont on va se souvenir pour le reste de nos jours. C'est rapidement consommé, rapidement oublié. Mais pendant que vous allez le regarder, ces 80 minutes-là, vous allez avoir du fun. Vous allez être un petit peu terrifié. Vous allez être un peu écœuré par également les maquillages. Bref, c'est tous les éléments que le mandat de ce film-là avait au départ lors de sa production. Et ça nous l'a livré, finalement. C'est ça qui est cool.
Tout à fait.
Pierre, on arrive déjà à la fin, mais je peux pas te laisser quitter sans y aller avec notre fameuse... Non, exactement, il est hors de question. Tu sais que moi, l'insatisfaction, je n'en donne pas. Alors, je vais y aller avec la fameuse section « Savais-tu, Pierre? » Pour ceux qui se joignent à nous, ben la fameuse section « Savais-tu? » C'est j'ai été vous chercher des petites anecdotes de coulisses sur la production de Border of Blood. Des anecdotes qui sont pas nécessairement connues de tout le monde. Es-tu prêt, Pierre?
Oui.
Alors, on y va. Savais-tu, Pierre, que dans une des scènes qui se passe dans un cimetière, on voit une crypte avec le nom de famille Gaines gravé dessus? Ben, c'est une référence à William Gaines, le créateur de la bande dessinée Tales from the Crypt.
Mais tu m'apprends quelque chose.
Savais-tu, Pierre, que dans la version anglaise, Ralph Gottman insulte Vincent sur sa petite taille en le traitant d'Ewok dément? Eh bien, Phil Fonda Caro, qui interprète Vincent, a bel et bien joué le rôle d'un Ewok en 83 dans Le Retour du Jedi. Savais-tu, Pierre, ben ça, tu m'as confirmé que tu le savais, une affiche de Demon's Night, le premier film de la série de long-métrage de Tales from the Crypt, peut être aperçue sur l'un des murs de la chambre de Caleb. Savais-tu, Pierre, attention, ça tu vas l'aimer, selon plusieurs acteurs et membres de l'équipe de tournage, Dennis Miller a été très désagréable avec eux pendant le tournage. Il envoyait très souvent son assistant personnel dire au réalisateur qu'il viendrait pas tourner ses scènes de la journée. Il a aussi dû être fréquemment remplacé par une doublure dans les plans où on voit son personnage de dos. Et un soir où il avait pas vraiment envie d'être sur le plateau, Miller a même volé une des camionnettes de la production pour tourner chez lui. Savais-tu, Pierre, que, avant que le scénario de Border of Blood soit choisi pour devenir le deuxième opus de la trilogie du film Tales from the Crypt, les producteurs ont longuement hésité entre deux autres scénarios qui sont maintenant devenus des films très connus. Le premier de ces scénarios s'intitulait From Dusk Till Dawn, de Tarantino et Robert Rodriguez, et le second était The Frighteners, écrit par Peter Jackson et son épouse Fran Walsh. Savais-tu, Pierre, que, dans une entrevue, Erika Eleniak a expliqué qu'une scène du scénario qui a pas été tournée révèle que le personnage de Catherine était une ancienne actrice de films pour adultes qui se faisait appeler Chubby O'Toole. Ça explique la réaction outrée de Catherine lorsqu'elle trouve dans le bureau de Ralph Gottman une affiche sur laquelle on voit écrit Chubby O'Toole. Ça explique aussi pourquoi Ralph demande deux fois à Catherine s'il ne l'a pas déjà rencontrée quelque part.
Et où est-ce qu'on peut se procurer une copie de Thunder Thigh?
En fait, c'est sur Pornhub en ce moment.
Ah, fantastique.
Savais-tu, Pierre, que les acteurs Corey Feldman, qui joue le rôle de Caleb, et Matt Hill, qui joue le rôle de Reggie, son ami qui l'accompagne au bordel, ont tous les deux prêté leur voix à des Tortues Ninja dans le film Teenage Mutant Ninja Turtle 3, celui qui se passe dans le temps, là, qu'on n'aime pas vraiment. Feldman et Hill interprétaient respectivement Donatello et Raphaël.
Ooh.
Et pour finir, savais-tu, Pierre, que après l'échec critique et commercial de Border of Blood, la trilogie cinématographique de Tales from the Crypt a contre toute attente, été complété en 2001 avec un film intitulé Ritual, une histoire d'enquête surnaturelle sur le culte du voodoo qui met en vedette Jennifer Grey, qu'on a pu voir entre autres dans Dirty Dancing et Ferris Bueller's Day Off, et Tim Curry, notre préféré. Une fois le film complété, les distributeurs n'ont pas vraiment su quoi en faire et l'ont remisé pendant plusieurs années avant de finalement sortir en DVD en 2006. Et bien, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez l'écouter gratuitement sur YouTube dès maintenant. Pierre, ça a été un vrai plaisir de t'avoir pendant cette heure-là en ma compagnie. Ça a été très nostalgique. Ça a été le fun d'avoir un peu ton point de vue sur Bordello of Blood. Un dernier mot en finissant?
Bien, j'aimerais te remercier pour ces informations intéressantes, le voyage nostalgique et la grosse coupe de sang fraîche.
Ah, ben y a rien là, c'est celui de mon voisin, alors s'il paye pas son loyer, eh ben vous savez pourquoi maintenant. Alors mes amis, chers auditeurs à la maison, tout ce qu'il reste à faire maintenant avant d'aller me sustenter sur une charmante demoiselle bourrée de sang au négatif, eh bien je vais vous souhaiter une très très belle soirée, je vais vous souhaiter un très bon Halloween, et nous autres on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Sans Commentaires, ou presque.